C'est FM Radio, bonsoir. Frédéric Moreau, du Coq à l'âne. Ce soir, nous partons pour l'année 1971. Un grand film et de la musique. À tout de suite. Dirty Harry. C'est Clint Eastwood. C'est un 44 Magnum. C'est le ciel bleu de la baie de San Francisco. Et c'est un film de Don Siegel. Le petit réalisateur qui, au fur et à mesure, se construit une filmographie dans laquelle figurent de vraies perles de films d'action. Siegel qui travaille d'abord avec Mitchum, Audie Murphy, le soldat le plus décoré de la Seconde Guerre mondiale, qui devient un acteur. John Cassavetes, Sam Peckinpah, puis, une fois sa réputation installée, Siegel tourne avec Steve McQueen, James Coburn, Lee Marvin, Walter Matthau, Richard Widmark, Charles Bronson et surtout Clint Eastwood. Tout ce qu'Hollywood des années 60 compte de gueules et de grands acteurs pour des films d'hommes. Dans les 50s, Siegel s'essaie au film noir avant de réaliser une première perle, un film d'anticipation, Invasion of the Body Snatchers, film culte dont deux remakes seront tirés dans les années 80 et 90, dont un très bon d'Abel Ferrara. Histoire de la prise en main par des extraterrestres du corps et de la conscience des habitants d'une petite ville californienne. Début d'une invasion irréversible en un temps où l'Amérique moyenne craint l'invasion des esprits du pays par le communisme rampant. Suivent ensuite quelques films où Siegel montre déjà sa grande maîtrise du film de genre et sa non-conformité avec l'esprit du temps, décalage constant de ses personnages, sans concession, en rupture avec une société bien huilée où tout semble bien tourné. Ainsi en est-il du secret du Grand Canyon. Puis viennent les années 60 et une succession de petites merveilles, comme le film de guerre, L'Enfer et pour les héros, et le sacrifice final de Steve McQueen en GI jusqu'au boutiste et rebelle aux ordres donnés. Ou alors The Killers, avec Lee Marvin et John Cassavetes en tueurs, s'interrogeant sur leur mission. Ou enfin Madigan, avec Richard Widmark, qui joue un inspecteur new-yorkais décidé à tout, jusqu'à sa vie, pour aboutir à ce qu'il juge juste. En 1971, Noriel Villa chante Étonner la Das.
Sente este samba quente que é muito legal. É super pra frente, é bem genial. Embalo como este, só quem vai curtir. Quem não se machucar quando deixa cair. Por isso vem, vem, quem parou na nossa. Este balanço tira qualquer da fossa. Ele é barato e é da pesada. Este é o famoso 16 toneladas. E bolei o ano inteiro este samba pra frente. É gostoso, pá, que é samba decente. Segura esta conversa, segura a jogada. Quem não gosta de samba, não gosta de nada. E a curtição, o samba empolgado. É flamengão no estádio lotado. Turma da pesada que segura a parada. Isso é famoso 16 toneladas. Sente este samba quente que é muito legal. É super pra frente, é bem genial. Embalo como este, só quem vai curtir. Quem não se machucar quando deixa cair. Por isso vem, vem, quem parou na nossa. Este balanço tira qualquer da fossa. Ele é barato e é da pesada. Este é o famoso 16 toneladas. E já dei o meu recado, agora vou me mandar. Vou refrescar a cuca pra poder incrementar. Foi de cuca cansada, só dá confusão. Onda de pirado deixa a gente na mão. Por isso nem vem, não vai me encontrar. Agora estou na minha, pois estou devagar. Já disse o que queria toda rapaziada. I love o 16 toneladas.
Puis ce sont trois films pour lesquels Siegel travaille avec Eastwood pour ensuite le pousser sur la voie de la réalisation. Clint Eastwood réalisant son premier film dès 1972. L'homme des hautes plaines. Donc les trois films réalisés par Sigel avec Eastwood, c'est d'abord Coogan's Bluff, où l'on voit un shérif venu du fond de l'Arizona, un rien redneck et bourru, plongé dans les rues de la New York des 68, la ville aux vues très ouvertes et libérales, à la poursuite d'un détenu en cavale. Puis c'est Sierra Torrine et un duo tonitruant et détonnant avec Shirley MacLaine, en aventurière déguisée en bonne sœur, et Clint, en mercenaire bougon et psychorigide, tous deux plongés en pleine nuit mexicaine contre la présence française. Et enfin, ce sont les proies, sorte de huis clos qui voient un soldat confédéré blessé, soigné par la directrice et les pensionnaires d'un pensionnat de jeunes filles, et devenir le jouet de leur sexualité bridée. Et malgré ses tours pour jouer les unes contre les autres, il ne finira pas par s'en sortir. Quelques mois plus tard, donc, Sigel retrouve Eastwood pour la quatrième fois, et c'est le tour de ce fameux Harry Callahan, le Dirty Harry, l'inspecteur Harry. L'œuvre la plus renommée et commentée de Sigel, pour ce que le personnage du policier joué par Eastwood peut avoir de détestable, de macho, voire de sadique.
I know what you're thinking. Did he fire 6 shots or only 5? Well, to tell you the truth, in all this excitement, I've kind of lost track myself. But Ian, this is a .44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and would blow your head clean off. You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky? Well, do you, Bunk?
I got to know.
Le film a suscité une certaine polémique et symbolise encore pour beaucoup ce qu'il n'est pas. Ainsi, la critique Pauline Kael, en janvier 1972, écrit dans le très intellectuel de gauche New Yorker « Ce genre de film d'action a toujours recelé un potentiel fasciste qui a fini par faire surface. Mais dans la mesure où le crime est causé par la dépravation, la misère, la psychopathologie et l'injustice sociale, l'inspecteur Harry est un film profondément immoral. » Pour Dirty Harry, Lalo Schifrin compose pour Sigel, avec lequel il aura collaboré 5 fois en tout. Lalo Schifrin, qui 3 ans plus tôt a signé la bande Son de Bullitt, retrouve donc San Francisco et un autre policier, cousin de Bullitt, pour lequel il installe d'emblée la tension par une mélodie dissonante. « retrouve San Francisco, donc. Théâtre de l'intrigue, comme pour Bélite. Ville à libre en 1971, et personnage à part entière tout au long du film. Dirty Harry, c'est l'histoire de la traque par Harry Callahan, d'un tueur, Scorpio, qui sème la panique en tuant des victimes au hasard. Scorpio, dont le nom rappelle celui du Zodiac, est inspiré justement de Zodiac, un tueur en série qui sévit depuis 1969 à San Francisco. Dans le film, Callahan préfère tenir tête au tueur que de céder à ses exigences, comme sont contraints de le faire les autorités, et de fait, de s'opposer, comme Bullitt en son temps, à sa hiérarchie. Le film de Siegel s'inspire des crimes du Zodiac, donc, tueur en série ayant frappé notamment à San Francisco, tueur resté inconnu qui pendant deux décennies se joue des policiers, des médias et d'une population californienne, un temps paranoïaque. La Californie dans les 60s, c'est le paradis artificiel, une société en liberté déclarée, une façon de vivre nouvelle, un power flower illusoire et une époque qui se meurt. Le nombre total des victimes de Zodiac reste incertain, soupçonné d'avoir tué au moins 5 victimes entre décembre 68 et octobre 69. Il est suspecté de bien plus de meurtres ou tentatives, jusqu'à près de 50 selon certains comptages. Et donc, pour revenir à la musique, en 1971, Aretha Franklin chante Rocksteady. Le premier double crime attribué au Zodiac a lieu le 20 décembre 1968 sur la route reliant Benicia et Valero en Californie. Après avoir affirmé aux parents de la jeune fille qu'ils allaient à un concert, Arthur Faraday et Betty Lou Jensen se sont rendus dans un coin isolé du lac Herman. À 23h30, ils sont assassinés à coups de Luger. Ce n'est pas bien de mentir à ses parents. Le 4 juillet 69, fête Natchez. Une voiture se gare tout feu éteint à proximité de celle où Darlene Elizabeth Ferrin et Michael Renault, Majot, font mille feux sans artifice. 5 minutes plus tard, la voiture est de retour et se gare derrière de manière à illuminer les deux amoureux. Un homme sort et marche dans leur direction. Michael Majot pense avoir affaire à un policier et se met à la recherche de ses papiers. L'homme tire 5 balles par la fenêtre descendue côté passager, puis il fait demi-tour vers sa voiture. Entendant Michael gémir, il revient sur ses pas et rajoute 2 nouvelles balles à chacun. Au diable l'avarice. Majot en rechappe, criblé mais vivant. Ferrine, elle, meurt. Bien des années plus tard, le 16 août 1991, Ontario, au Canada, George Bawar de la police de Valero montra à Michael Majot une série de photos de suspects dans l'affaire du Zodiac. Majot identifia formellement Arthur Leigh Allen comme son agresseur. La police alors décida une confrontation avec Leigh Allen, mais Allen décéda avant qu'elle n'eût lieu. À noter également que Robert Graysmith ne reçut plus aucun appel anonyme après le décès d'Arthur Leigh Allen, qui reste à ce jour le principal suspect. Robert Graysmith travaillait pour le journal de San Francisco, a suivi l'enquête pendant des années et a même sorti un livre sur le Zodiac. Fin 60, début 70, la Révolution est encore un projet en illusion et la télévision devient le média omniprésent et omnipotent outre-Atlantique. Le grand poète américain Gil Scott Heron chante en 1971 « The Revolution will not be televised ».
Not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in 4 parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on Deport from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still life of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Green Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry R. Woman Liberationist and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Key, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.
Le 27 septembre 1969, sur les bords du lac Berryessa, encore un lac, une fois de plus, Cecilia Ann Shepard et Brian Calvin Hartnell sont poignardés par un homme portant cagoule, après les avoir attachés et entamés avec eux une conversation. Avant de disparaître, l'homme grave sur la voiture de Hartnell le symbole du Zodiac, une mire, et les dates de ses agressions précédentes. Ego quand il nous tient. Cecilia Shepard succombe 2 jours plus tard, alors que Brian Hartnell survit. Les femmes, décidément, ont moins de chance que les hommes avec le Zodiac. Le 11 octobre 1969, à San Francisco, un chauffeur de taxi, Paul Stein, prend en charge un client. On le retrouve dans sa voiture, tué d'une balle dans la tête. Avant de partir, l'assassin prend des souvenirs, les clés du taxi, le portefeuille et un morceau de chemise ensanglanté qu'il enverra un peu plus tard à la presse. Le témoignage des 3 adolescents témoins de la scène permet alors d'établir un portrait robot du Zodiac. Les 70s, c'est aussi une révolution sexuelle. Et en 1971, le premier album concept français de Gainsbourg sort. Il s'agit de Melody Nelson, dont voici certainement le morceau le plus éloquent.
Le ciel de Sunderland. Elle prit le 707, l'avion cargo de nuit, mais le pilote automatique aux commandes de l'appareil fit une erreur fatale à Melody.
Le 22 mars 1970, Kathleen Jones roule avec sa petite fille, Jennifer, sur l'autoroute 132. Une voiture qui la suit lui fait des appels de phare et klaxonne. Le conducteur remonte à sa hauteur et lui apprend qu'une de ses roues va se décrocher. Elle se gare, et l'homme lui propose de réparer la chose. Il descend muni d'une manivelle et semble exécuter la réparation. Mais au lieu de serrer, il desserre les boulons. Lorsque Kathleen Jones redémarre, la roue lâche pour de bon. L'homme l'invite alors à bord de son véhicule et lui offre de l'emmener à une station. Elle accepte. Après plusieurs kilomètres et 2 stations passées, effrayée, Kathleen Jones profite d'un arrêt à un stop pour s'enfuir. Un peu plus tard, en présence des policiers, elle identifie son ravisseur à partir du portrait robot du Zodiac. Zodiac a encore frappé, mais cette fois-ci, sa victime en a réchappé. 1971, c'est le début des actions révolutionnaires un peu partout en Occident. Et The Heptones chantent « Freedom to the people ». Celui qui se donne dans les nombreuses lettres qu'il envoie à la presse est signé par un symbole ressemblant à la mire de visée d'un fusil. 2500 suspects sont interrogés au cours des deux décennies de l'enquête, menée entre autres par l'inspecteur du San Francisco Police Department, David Toshi. David Toshi que Steve McQueen prit en 68, trois ans avant, et donc avant les crimes du Zodiac, comme modèle pour son personnage de Bullitt. Jusqu'à revêtir les mêmes vêtements et porter la même arme, crosse en avant dans le holster. Toshi, incarné par Mark Ruffalo dans le film Zodiac de David Fincher. Film dans lequel on assiste d'ailleurs à un moment à une projection de Dirty Harry dans un cinéma de San Francisco. l'inspecteur Harry, double également de Toshi, une sorte de nœud de Mobius cinématographique et policier. D'autant que durant l'enquête sur le Zodiac, les projections de Dirty Harry sont placées sous surveillance et filmées même, la police pensant alors que le tueur pourrait avoir envie de voir son double cinématographique. Peine perdue. La police n'a toujours pas résolu les affaires liées ou présumées liées au Zodiac, 40 ans plus tard. En 1978, une 16e et dernière lettre est envoyée à la police, dernier pied de nez du Zodiac, toujours présent et jamais inquiété. À moins évidemment que M. Allen soit le vrai Zodiac, mais ça nous ne le saurons jamais. En 1971, donc, Jim Morrison meurt à Paris. Les Doors s'en apportent. Le dernier album du groupe, Ella Woman, est sorti un peu plus tôt. Et en voici un morceau de choix. Love Her Madly, comme il se doit quand on aime à en crever.
Don't you love her madly? Don't you need her badly? Don't you love her ways? Tell me what you say.
Harry, Scorpio n'est qu'un faire-valoir de Harry Callahan. Un personnage à sa hauteur. Il n'a rien d'original, si ce n'est sa brutalité. Il n'est en rien un méchant sur lequel reposera le film. Il joue en fou total et il jouit de la terreur et du mal qu'il génère. Comme dans Bullitt, San Francisco est un labyrinthe dans lequel les deux hommes jouent à cache-cache et s'il n'y a pas une haletante poursuite comme dans le film de Yates, la ville n'en est pas moins révélatrice d'une certaine tension. Callahan n'est pas le policier parfait que l'on peut voir dans nombre de films policiers américains des années 50 et 60. La touche de Siegel est profonde. Callahan est un représentant de l'ordre qui défie l'ordre. Rude, sans politesse ni considération, indifférent à la hiérarchie et à l'administration, il l'exprime sans embâge. En toute situation, malgré son peu de goût pour la discussion et les mots, pour ne rien dire, et fait montre d'un humour à froid, un rien cynique. Rebelle, solitaire, individualiste, il n'est pas raciste comme on le pense, mais il n'aime personne, mettant ainsi tout le monde sur le même pied d'égalité. De ce fait, il est envoyé sur tous les sales coups, sur tous les fronts, et s'il use d'une certaine violence pour arriver à ses fins, il n'en est pas pour autant un tenant de la violence pour la violence. Mais ces gels posent le problème de la légitimité de la violence, justement. Lorsque l'inspecteur Harry se retrouve seul avec Scorpio, dans l'immensité d'un stade vide et de nuit, les symboles sont forts, et lorsqu'il le torture pour lui faire avouer l'endroit où il a enterré vivante une de ses victimes. Enfreint-il le droit? Est-ce le bon choix pour sauver une victime? Est-il légitime de suivre son instinct plutôt que les règles? La question est posée, et Sigel répond à sa façon. Heureusement, en 1971, Mr. Bojangles saute et danse toujours aussi haut pour nous, avec l'éternelle Nina Simone.
I knew a man, Bojangles, and he danced for you. In worn-out shoes, with silver hair, a ragged shirt, and baggy pants. The old soft shoe. He jumped so high. Then he lightly touched the ground. I met him in a cell in New Orleans. I was down and out. He looked at me to be the eyes of age. As he spoke, he laughed and slapped his leg a step. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles. Said his name, Bojangles, then he danced a lick across the sand. He grabbed his pants, a better stance. Oh, how he jumped up high. He clicked his heels. He let go alive. Let go alive. He stood up and shook back his clothes all around. He danced for those at minstrel shows and county fairs throughout the South. He spoke with the tears of 15 how his dog and he traveled about. His dog up and died. He just up and died. After 20 years, he still grieved. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, dang. He said, I dance now at every chance and honky tonks for drinks and tears.
most of the time I spend behind these county bars. He said, I drink a beer. He shook his head, and as he shook his head, I heard someone respectfully ask, Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Dangle.
Le film Dirty Harry est un rapport de force opposant d'abord les autorités de San Francisco au tueur Scorpio, qui se transforme au fur et à mesure en un duel à mort entre l'inspecteur et le criminel. Son rapport de force s'inverse à plusieurs reprises, le criminel passant un temps pour la victime de la brutalité policière, le policier étant en but au vu légal de sa hiérarchie, et la seule fin possible ne peut qu'être la mort d'un des deux duellistes. Jusqu'où peut-on aller pour assurer la sécurité? Callahan, Dirty Harry, laisse un goût amer au spectateur. Il devient un être violent et dangereux. On ne peut l'aimer même si une partie de soi le comprend. Et cette compréhension instillée par Sigel dans la conscience de chaque spectateur devient bien plus que gênante. Un ange passe et les doutes planent. Si Dirty Harry est un défenseur emblématique d'une pensée conservatrice opposée à cette époque au mode de vie hippie symbolisé par le tueur, le film n'en est pas fasciste pour autant. Une certaine ambivalence plane sur les intentions du réalisateur, mais en aucun cas le film est immoral. Et l'humour qui émerge en est une preuve singulière. En 1971, en Californie, mais également un peu partout aux États-Unis, la dope, l'héros, coule dans les rues. Enfin devient un boire. C'est devenu dandy et hype. Mais la mort est là, en overdose, et la French Connection chimise à foison. Les Stones, jamais avares d'une mode, et puisque Stone à la horse blanche, chante Sugar Brown, dans le si british Stinky Fingers, sorti cette année-là.
Go!
l'époque du combat des Afro-Américains. Le film Shaft sort en 1971, la même année que Sweetback's Bad Ass Song des Melvin Van Peebles. Les deux faces de la même pièce de la Blaxploitation. Et de leur succès va découler un flot permanent de tentatives plus ou moins abouties ou réussies. Tandis que le film de Van Peebles, indépendant et radical dans son propos et dans sa forme, montre un héros fier de sa négritude qui court sans interruption tout le long de l'histoire, poursuivi qu'il est par les Blancs, Shaft, lui, interprété par un Richard Roundtree tout en distance, est l'histoire quotidienne d'un détective noir de New York, un détective à la cool, personnage classique du film policier donc. Assez conventionnel, toujours du bon côté, tandis que la Blaxploitation a tendance, elle, à s'emparer de personnages bien plus marginaux, voire criminels. Shaft donc est sobre, ainsi que la musique, composée par le film, par Isaac Hayes. We'll be right back. pêle-mêle. Dirty Harry, Siegel, Eastwood, Shaft, Peckinpah, Cassavetes. Ça ne vous dit rien? Des films de genre, de la blaxploitation, du western, des films de guerre, de l'action, du détachement, de la violence, du cynisme. Tarantino peut aller se recoucher, il n'a rien inventé. Tout est là, pensé, inventé, ficelé, et surtout pur, dur, sans fioriture aucune, ni clin d'œil. De très beaux bijoux, ciselés sans manière, et un seul désir, un seul, ne pas se faire plaisir. Je vous laisse avec le toujours impeccable James Brown. Bonsoir. My tongue.
Fellas!
Yeah!
A brand new funk.
Tell us about it.
Brand new funk.
Yeah.
All right. If you want to get down with a bird, this is the way you do it.
Yeah.
Walk up and rap to it.
Uh-huh.
Put your hand on the lower left arm.
Come on now.
You know?
Yeah.
And this is what you rap to.
Come on,
I mean, come on like you should.
Uh-huh.
Come on with you, come on.
Yeah.
Keeping it all inside. Now give me.